en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour, c'est de l'Italie et de la relation que le grand écrivain Chateaubriand entretenait avec ce pays que nous allons parler dans cette émission, en compagnie de Giovanni Dottoli, professeur de langue et de littérature française à l'Université de Paris, qui a consacré un livre aux voyageurs français en Italie intitulé « Le jardin d'Italie », paru aux éditions Honoré Champion en 2008. Parmi les voyageurs français célèbres qui furent fascinés par l'Italie, il faudrait en citer d'innombrables, de Chateaubriand justement à Flaubert, de Stendhal à Yves Bonnefoy, de Cocteau à Paul Morand, et parmi nos académiciens actuels, Pierre-Jean Rémy, Dominique Fernandez, on ne peut les citer tous. Alors aujourd'hui, avec Giovanni Dottoli, c'est Chateaubriand. Bonjour Giovanni Dottoli.
Bonjour Madame Renard, je suis très content d'être encore là. Évidemment, ce parcours d'amour des Français à l'égard de l'Italie intéresse beaucoup. Je suis très content de pouvoir contribuer à développer ultérieurement cet acte d'amour.
Voilà, alors l'amour de Chateaubriand en Italie, vous allez nous en parler. Je rappellerai seulement, si vous me le permettez, un tout petit peu les conflits, j'allais dire, de Chateaubriand avec l'Académie française, avec Napoléon particulièrement. Napoléon voulait que Chateaubriand fût de l'Institut et il le lui fit dire par Fontane, mais l'écrivain a refusé, ça a été évidemment mal pris. Bref, il a été élu le 20 février 1811 en remplacement de Chénier, mais pas Joseph Chénier, Marie-Joseph, pas André Chénier, hein, son frère aîné, je crois. Chateaubriand, dans son discours, n'était pas très très favorable, disons, à son prédécesseur. Ça a donc été aussi très mal pris. Bref, le discours a été soumis à l'appréciation de l'empereur qui, finalement, en a interdit la lecture. Ce qui fait que Chateaubriand n'a pas pu siéger sous la coupole et qu'il n'a occupé son fauteuil que sous la Restauration. Et alors, maintenant, Giovanni Dottoli, vous allez nous dire quand Chateaubriand est-il allé en Italie pour la première fois ?
Et donc, c'est vraiment un acte, en ce cas-là, de très grand amour à l'égard de l'Italie. Parce qu'il arrive la première fois à Rome le 27 juin 1803. Donc, au tout début, disons, du 19e siècle, nous le retrouvons à Rome comme secrétaire de légation. Et là, bien sûr, son contact avec ce monde romain du passé, de l'archéologie, de la grandeur de Rome, de la latinité, de la Méditerranée commence. Et c'est justement ce contact avec la ville de Rome qui traversera toute l'œuvre de Chateaubriand à plusieurs,
plusieurs époques.
Mais la lignée reste toujours la même, c'est-à-dire le grand romantique qui arrive à Rome et qui regarde les ruines romaines comme, d'un côté, un moment du jardin de l'histoire, du jardin d'Italie, bien sûr, de l'art de vivre de Rome et de l'Italie, mais en même temps, une réflexion importante sur l'histoire. L'histoire, qui est une des grandes disciplines du romantisme, apparaît plutôt chez Chateaubriand comme le moment de la tristesse. Le romantisme, vraiment, pas du mal du siècle, mais plutôt du mal de l'histoire, du mal de la vie. Et il retrouve à Rome, dès son premier contact, quelque chose d'ennuyeux, quelque chose de pénible, qui est lié à la grandeur du passé, à la grandeur des ruines, un peu comme ça s'était passé pour Du Bellay 4 siècles avant lui.
Donc il est plutôt sensible à la décadence romaine, j'allais dire, qu'à l'apogée de Rome.
Absolument, c'est cette décadence de l'histoire qui en fait un peu une sorte de marque du génie du christianisme, d'un côté le spectacle de la chrétienté, et de l'autre, la mort de l'histoire. Ces ruines romaines, bien sûr, Rome n'était pas la grande ville de nos jours. Il faut rappeler que c'est une ville qui, à l'époque, ne comptait pas plus de 100 000 habitants.
Belle époque.
Belle époque. Tout a changé maintenant.
Alors, Giovanni d'Otoli, on sait que Chateaubriand a écrit l'itinéraire de Paris à Jérusalem. Est-ce que, justement, il y parle de l'Italie?
Bien sûr, il y parle de l'Italie. Le départ de Trieste, il part de Trieste où il était consul, donc il a eu une responsabilité même à Trieste. N'oublions pas qu'il s'agit d'une ville qui, à l'époque, n'est pas italienne, qui appartient à l'Autriche. Donc c'est l'Italie, mais une Italie continentale, internationale, disons. Et Chateaubriand, dans son itinéraire à Jérusalem, touche l'Italie un peu de côté. C'est plutôt l'Italie catholique, l'Italie du christianisme, l'Italie des fastes, du spectacle, de l'Église, de la mort et de la vie. Mais l'Italie, à part cela, est présente surtout dans son livre « Voyage en Italie », qui est une série de lettres qu'il écrit, comme on le sait, à ses amis français, et notamment à M. Fontane. Et là, vraiment, on trouve des pages époustouflantes. Dès son contact avec le mirage italien, avec les Alpes, donc les Alpes italiennes, c'est un véritable itinéraire romantique qui commence, qui n'est pas vraiment à la mode du Grand Tour, qui traversait toutes les grandes villes italiennes du nord jusqu'à Naples. On n'allait pas au-delà de Naples pendant le Grand Tour. Chez Chateaubriand, c'est vraiment la ville, le pays de l'idéal, du songe, de la magie, du rêve. Et dès que l'Italie lui apparaît, c'est vraiment le jardin d'Italie qui apparaît. Et il dit, en arrivant à Domodossola, que le ciel italien mobile, formé de vapeurs et de nuages, qu'il note immédiatement un certain jeu de lumière et d'ombre, et un petit souffle que notre ancienne langue appelait l'or, que l'on retrouve dans toute la littérature classique grecque et romaine. Et quand il arrive du côté de Rome, il parle d'une vapeur bleuâtre répandue à travers le paysage en adoucissant les plans et de contours suaves et fuyants des montagnes qui terminent cet horizon. Donc ce sont là déjà, disons, des fresques d'une Italie à la Chateaubriand qui, disons, marche sur deux bords, sur deux rives. D'un côté, le rêve du ciel italien, donc un peu à la Baudelaire, c'est-à-dire ce ciel que le poète regarde en planant au-dessus de la terre. Donc il oublie toutes les choses négatives qui existent quand même. Et de l'autre côté, c'est l'histoire, le passé. Donc, le passé qui est un passé idéalisé. Ces ruines romaines, mais aussi italiennes, pas seulement romaines, et de l'autre côté, l'Italie réelle qui est un peu mise de côté, qui n'existe pas pour lui. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment le ciel, l'aura, le soleil, la lune, disons, l'idéal qui illumine les monuments.
Giovanni d'Otoli, combien de voyages Chateaubriand fait-il en tout en Italie?
Donc, il a fait la beauté de 6 voyages. Donc,
ce qui
est beaucoup pour un Français.
Il était ambassadeur à Rome en 1828.
Voilà, il était ambassadeur à Rome auprès, bien sûr, du Vatican. Et donc, il faut insérer son amour pour l'Italie, non seulement dans le contexte du christianisme. Il ne faut pas oublier que son livre, « Le génie du christianisme », est vraiment un chef-d'œuvre d'éloge de tout le spectacle baroque du christianisme. Mais il l'a écrit avant d'être ambassadeur à Rome. Il paraît que les papes qui se sont succédés c'est lui qui le répète plusieurs fois, ont adoré ce livre, qui le lisait souvent le soir avant de dormir, les papes. Donc c'était un livre fondamental dans la formation de l'itinéraire intellectuel de Chateaubriand, comme l'a montré un grand académicien d'aujourd'hui, c'est-à-dire Marc Fumaroli, dans son livre,
qui en a parlé, oui.
Voilà, dans son livre concernant justement Chateaubriand. Donc je disais qu'il a fait 6 voyages, le premier en 1803, un deuxième voyage 3 ans après en 1806, et là il touche Venise et Trieste justement pour aller de Paris à Jérusalem. Un troisième voyage en 1822, à l'époque où il participe au congrès de Vérone, en tant que toujours diplomate, bien sûr. Le quatrième voyage, de 28 à 29, comme vous venez de le dire, comme ambassadeur de France auprès du Saint-Siège. Puis en 1833, on le retrouve à Venise et à Ferrare. Et là, il parle de Venise en disant « Venise, nos destins ont été pareils, mes songes s'évanouissent à mesure que vos palais s'écroulent ». Je vais reparler de Venise parce que je crois que ces thèses sur Venise sont très importantes et très actuelles. Et le dernier voyage passe encore une fois à Venise à l'âge de 77 ans, en mai et juin 1845, disons, c'est le Chateaubriand des mémoires, d'outre tombe réelle, mais de tombe réelle parce qu'il va mourir quelque temps après. Alors, je parlais de Venise. Pourquoi Venise est capitale dans la vie de Chateaubriand? C'est parce que, comme je viens de le dire en citant quelques mots de Chateaubriand à propos de Venise, il se personnalise dans la ville, dans l'histoire, dans l'image de Venise. Venise est la grande ville de la tradition des liens entre l'Orient et l'Occident, disons Jérusalem et Paris ou Jérusalem, l'Orient et l'Europe, le Moyen-Orient, la Méditerranée et l'Europe. La ville du faste que l'on retrouve dans le génie du christianisme, un faste païen et pas chrétien. Mais cela n'a pas d'importance chez Chateaubriand. Le faste est le faste humain, la vie comme un moment de gloire, disons. Mais en même temps, Venise est déjà chez lui la ville de la mort. La ville qui s'écroule, les palais qui sont enfoncés dans l'eau, que les Vénitiennes ne veulent pas toucher, parce que c'est leur histoire, c'est leur vie, c'est leur présent, leur passé, leur avenir. Et donc il annonce déjà cette mort de Venise qui traverse tout le XIXe siècle, y compris Georges Sand et Musset, qui bien sûr ont été à Venise et ont passé un moment important de leur grand amour, et même dans leur tragique. Tout cela s'est passé tout justement à Venise. On retrouve déjà Cocteau qui écrira sur Venise plus de 100 ans après, mais exactement sur la même lignée, cette mort de Venise. Et on retrouve même le cinéma du XXe siècle, bien sûr, concernant Venise, la mort de Venise de Visconti et de Cocteau. Cocteau aussi a fait un film où il parle de Venise lui-même. Il y a, dans ce film, on a sa voix, la voix de Cocteau qui narre justement les eaux des canaux de Venise qui, disons, sapent à la base tous les palais de Venise, les palais historiques, y compris la place de Saint-Marc, comme pour dire que nous sommes tous très provisoires au monde et le provisoire intéresse plus que le définitif. Donc Chateaubriand, je pense que vraiment, non seulement pour ses idées politiques. On oublie qu'il a écrit un essai sur la Révolution française qui est fondamental, d'une grande actualité, parce qu'il prévoit dans cet essai tout ce qui se passerait après, c'est-à-dire la fin de la Révolution, le retour de la Restauration. Ce n'est pas encore Napoléon, mais presque. Donc il comprend Napoléon avant Napoléon. Et donc l'Italie, Venise, Rome, Naples, Florence sont un peu le symbole de l'histoire, c'est-à-dire on a des moments magnifiques, des moments de faste, la grandeur romaine. Montesquieu avait dit la même chose en voyageant en Italie. Et puis cette Italie qui reste là comme un musée, et musée vivant, et sur lequel on s'attriste, on est triste devant une réalité immense qui est devenue des pierres, un colisée mort, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore d'électricité, donc le colisée n'était illuminé que par la lune, la nuit, quand la lune était là.
Giovanni Dottoli, avez-vous préparé un petit extrait pour nous lire
Je
et nous faire rêver de l'œuvre de Chateaubriand lorsqu'il décrit l'Italie?
Par exemple, là, voilà la vanité dont je parlais, il est à Rome, il dit « Que peut-il y avoir de plus vain que tout ceci ? Je lis sur une pierre les regrets qu'un vivant donnait à un mort. Ce vivant est mort à son tour, et après 2000 ans, je viens, moi, barbare des Gaules, parmi les ruines de Rome, étudier ses épitaphes dans une retraite abandonnée. Moi, indifférent à celui qui pleura comme à celui qui fut pleureur. Moi, qui demain m'éloignerai pour jamais de ces lieux et qui disparaîtrai bientôt de la terre. » Voilà, il y a toujours le thème de la mort. Et dans cette page, il est intéressant de voir comment il a ramassé les phrases célèbres de quelques écrivains romains, latins, qui insistent sur ce passage du temps. Il cite Horace, Carpe diem, puis Tibulle, te spectem suprema mihi cum venerit ora, Virgil, invalidasque tibi tendens eu non tua palmas. Donc toujours cette lutte avec la mort, cette lutte avec l'histoire et le sens du temps que l'on retrouvera 50 ans après. Dans les fleurs du mal, toujours la lutte avec la mort. On peut citer encore quelque chose de Chateaubriand. J'ai ouvert ma fenêtre, les flots venaient expirer au pied des murs de l'auberge. Je ne revois jamais la mer sans un mouvement de joie et presque de tendresse. Là, il était à Naples, il a beaucoup écrit sur Naples, mais généralement on ne cite pas ces pages sur Naples qui sont des pages, encore une fois, d'une grande actualité parce qu'il admire la mer, le silence et les bruits de Naples, exactement comme le fera Lamartine qui, quelque temps après lui, qui lui aussi a été ambassadeur en Italie, mais ambassadeur de France auprès du royaume de Naples.
Merci beaucoup Giovanni Dottoli. Je rappelle que en tapant le mot Italie sur Canal Académie, vous pourrez trouver les autres émissions de cette série, puisque c'est une série que nous avons réalisée à partir du livre et des connaissances de Giovanni Dottoli, le livre intitulé Jardin d'Italie, à la recherche d'un art de vivre. Il y a d'autres portraits, notamment celui de Jean Cocteau, celui de Paul Morand. Il y aura sans doute aussi un portrait de Julien Green. Nous en ferons plusieurs pour votre grand plaisir et pour vous faire rêver. Merci Giovanni Dottoli.
Merci à vous, merci aux chers auditeurs de Canal Académie.